Trois mois plus tard, Aureliano le second et Fernanda emmenèrent Memme en pension et s'en revinrent avec un clavecin qui prit la place du piano mécanique. C'est vers cette époque qu'Amaranta se mit à tisser son propre linceul. La fièvre de la banane était tombée. Les anciens habitants de Macondo étaient refoulés et coincés par les nouveaux venus et se raccrochaient péniblement aux précaires moyens d'existence d'autrefois, réconfortés malgré tout par l'impression d'avoir survécu à quelque naufrage. À la maison, on continua de recevoir des invités à déjeuner, mais en réalité, il fallut attendre plusieurs années plus tard le départ de la compagnie bananière pour voir rétablies les anciennes habitudes de vie. On assista cependant à des changements radicaux dans le sens traditionnel de l'hospitalité, car c'était désormais Fernanda qui imposait ses lois. Ursula se trouvant reléguée dans ses ténèbres et Amaranta tout absorbée dans la confection de son suaire, l'apprentie souveraine de jadis eut toute liberté de sélectionner les convives et de les soumettre aux normes rigides que lui avaient inculquées ses propres parents. Sa sévérité transforma la maison en bastion de belles manières retrouvées, dans un village convulsionné par la vulgarité avec laquelle les étrangers dilapidaient leur rapide fortune. Pour elle, il n'était pas besoin de chercher plus loin. Les gens de bien étaient ceux qui n'avaient rien à voir avec la compagnie bananière. Jusqu'au jour où son propre beau-frère, José Arcadio le second, fut victime de son ardeur discriminatoire parce qu'il avait de nouveau adjugé ses magnifiques coqs de combat et, dans l'enthousiasme bouillonnant de la première heure, s'était embauché comme contremaître à la compagnie bananière. « Tant qu'il aura la gale des étrangers, qu'il ne remette plus les pieds dans cette maison !» dit Fernanda. L'austérité imposée à la maison devint telle qu'Aureliano le second, en définitive, se sentit beaucoup plus à l'aise chez Petra Cotes. Tout d'abord, sous prétexte de décharger son épouse d'une partie de ses soucis, il y transféra ses orgies. Ensuite, sous prétexte que les bêtes étaient en train de perdre de leur fécondité, il y transporta étables et écuries. Pour finir, sous prétexte qu'il faisait moins chaud chez sa concubine, il déménagea le petit bureau où il s'occupait de ses affaires. Quand Fernanda prit conscience qu'elle était une veuve dont le mari n'était pas encore mort, il était déjà trop tard pour revenir à l'ancien état de choses. Aureliano le second venait à peine manger à la maison, et les quelques apparences qu'il continuait à sauvegarder, comme celle de dormir à côté de son épouse, ne suffisaient plus à convaincre personne. Une nuit, par mégarde, le petit matin le surprit dans le lit de Petra Cotes. Fernanda, contrairement à son attente, ne lui adressa pas le moindre reproche et ne poussa pas le plus léger soupir de ressentiment, mais ce même jour lui fit expédier chez sa concubine ses deux malles pleines de vêtements. Elle les lui fit parvenir en plein jour, avec ordre de les acheminer par le milieu de la rue afin que tout le monde les vît, pensant que son mari égaré ne pourrait supporter pareille honte et s'en reviendrait tête basse au bercail. Mais ce geste héroïque fut une preuve supplémentaire, s'il en était besoin, qu'elle méconnaissait non seulement le caractère de son mari, mais la nature profonde d'une communauté qui n'avait rien à voir avec celle dont avaient fait partie ses parents. Car tous ceux qui virent passer les mâles se dirent que c'était là, en fin de compte, l'issue normale d'une histoire dont nul n'ignorait les plus intimes détails. Et quant à Aureliano le second, il célébra cette liberté offerte par un festin qui dura trois jours. Pour encore mieux désavantager l'épouse, cependant que celle-ci amorçait une mauvaise maturité dans ses sombres vêtements ecclésiastiques, avec ses médaillons anachroniques et son orgueil déplacé, la concubine paraissait regorgée d'une seconde jeunesse, boudinée dans de somptueuses toilettes en soie naturelle, les yeux tigrés par le feu de la revendication. Aureliano le second se rendit de nouveau à elle avec la fougue de l'adolescence, comme autrefois, quand Petra Cotes ne l'aimait pas pour lui-même, mais parce qu'elle le confondait avec son frère jumeau et que, couchant avec les deux à la fois, elle pensait que Dieu lui avait octroyé la bonne fortune d'avoir un homme qui faisait l'amour comme deux. Cette passion retrouvée s'avérait si pressante qu'en maintes occasions, alors qu'il s'apprêtait à manger, il se regardait dans les yeux et, sans rien dire, reposait les couvercles sur les plats pour s'en aller dans leur chambre mourir de faim et d'amour. Inspiré par tout ce qu'il avait vu au cours des visites qu'il avait furtivement rendues aux matrones françaises, Aureliano le second acheta à Petra Cotes un lit à baldaquin archiépiscopal, mit des rideaux de velours aux fenêtres et couvrit le plafond et les murs de la chambre de grands miroirs en cristal de roche. On le vit alors plus bambocheur et gaspilleur que jamais. Par le train qui arrivait chaque jour sur les 11 heures, il recevait des caisses et toujours plus de caisses de champagne et de brandy. En revenant de la gare, il entraînait vers une bamboche improvisée quiconque se trouvait sur son chemin, natif du village ou étranger, connu ou inconnu, sans distinction d'aucune sorte. Ne vit-on pas jusqu'au fuyant Mr. Brown, qui ne savait répartir qu'en langue étrangère, se laisser séduire par les signes tentateurs que lui adressait Aureliano le Second, et à plusieurs reprises, se saouler à mort au domicile de Petra Cottès, et faire en sorte que les féroces bergers allemands qui le suivaient partout se missent à danser sur des airs texans que lui-même mâchonnait n'importe comment au rythme de l'accordéon.
« Hors de mon chemin, bande de vaches !»
beuglait Aureliano le Second au paroxysme de la fête.
« Place ! La vie est si courte !»
Jamais il n'eut meilleure mine. Jamais il ne fut tant aimé, jamais la reproduction de ces animaux n'atteignit des proportions aussi énormes. Au cours de ces interminables festins, on sacrifiait tant de têtes de bétail, tant de porcs et de volailles, que la terre du patio devint noire et fangeuse à cause de tout ce sang versé. Ce n'était plus qu'un éternel amoncellement d'os et de tripes, un dépotoir où l'on jetait les restes et les détritus, et il fallait à tout moment allumer les cartouches de dynamite pour empêcher les ouroubous de venir arracher les yeux des convives. Aureliano le Second devint gros et gras, violacé, tout tortufié, en raison d'un appétit à peine comparable à celui de José Arcadio lorsqu'il s'en revint de son tour du monde. Le prestige de sa gloutonnerie surhumaine, de son incommensurable prodigalité, de son hospitalité sans précédent, franchit les limites du Marigot et attira les goinfres parmi les mieux qualifiés du littoral. De toutes parts débarquèrent de fabuleux baffreurs, venu participer au fantastique tournoi de résistance et de capacité qui s'organisait chez Petra Cottès. Aureliano le Second demeura le champion incontesté de la mangeaille, jusqu'à ce malheureux samedi où apparut Camilla Sagastume, femelle totémique qu'on connaissait dans le pays sous le bon nom de l'éléphante. Le duel se prolongea jusqu'au mardi à l'aube. Au bout des premières 24 heures, ayant ingurgité une génisse accompagnée de manioc, d'igname et de bananes frites, sans compter une caisse et demie de champagne, Aureliano le Second tenait sa victoire pour assurée. Il faisait montre de plus d'enthousiasme et d'entrain que son imperturbable adversaire, dont le style, de toute évidence, était davantage d'un professionnel, mais par là même touchait moins le public bigarré que la maison avait peine à contenir. Cependant qu'Aureliano le Second dévorait à belles dents, emporté par la soif du triomphe, l'éléphante sectionnait sa viande avec une science de chirurgien et la mangeait sans se presser, avec même un certain plaisir. Elle était massive et gigantesque, mais chez elle, la tendresse de la féminité l'emportait sur la colossale corpulence. Et son visage était si beau, ses mains si fines et soignées, son charme personnel si irrésistible, qu'au moment où il la vit entrer dans la maison, Aureliano le Second confia à voix basse qu'il aurait préféré que le tournoi se fît au lit plutôt qu'à table. Plus tard, lorsqu'il la vit venir à bout d'un cuisseau de veau sans enfreindre une seule fois les bonnes manières, il affirma très sérieusement que, d'un certain point de vue, ce délicat, fascinant et insatiable proboscidien représentait pour lui la femme idéale. Il ne se trompait pas. Sa réputation de grand rapace charognard, qui la précédait en tout lieu, ne reposait sur rien. Elle n'avait rien d'une étrangleuse de bœufs vivants, comme on racontait. Elle n'était pas davantage la femme à barbe d'un cirque grec, mais dirigeait un cours de chant. Elle avait appris à manger ainsi, alors qu'elle était déjà une respectable mère de famille, en cherchant une méthode qui permit à ses enfants de mieux s'alimenter, non pas en stimulant artificiellement l'appétit, mais par une absolue tranquillité d'esprit. Sa théorie, qui se vérifia dans la pratique, reposait sur le principe qu'un être parfaitement en règle avec sa conscience pouvait manger sans trêve jusqu'à ce que la fatigue le vainquît. De sorte que ce fut pour des raisons morales et non par intérêt sportif qu'elle abandonna foyer et cours de chant pour aller se mesurer à un homme dont la réputation de grand mangeur sans principe avait fait le tour du pays. Dès l'instant où elle le vit pour la première fois, elle comprit que ce qui flancherait chez Aureliano le Second, ce n'était point son estomac, mais son caractère. Au bout de la première nuit, tandis que l'éléphante ne se départissait pas de son impassibilité, Aureliano le Second s'épuisait à tant rire et à tant parler. Ils dormirent 4 heures. Au réveil, chacun avala le jus de 50 oranges, 8 litres de café et une 30aine d'œufs crus. Au matin du 2e jour, au bout de longues heures de veille et après avoir liquidé 2 porcs entiers, un régime de bananes et 4 caisses de champagne, l'éléphante soupçonna Aureliano le Second d'avoir découvert sans s'en apercevoir la même méthode qu'elle, mais par le biais absurde d'une totale irresponsabilité. Il s'avérait donc plus dangereux qu'elle ne l'avait pensé. Pourtant, lorsque Petrakotès apporta sur la table deux dindons rôtis, Aureliano II n'était qu'à un doigt de la congestion. « Si vous n'en pouvez plus, arrêtez-vous de manger, lui dit l'éléphante. Restons à égalité. » Elle le proposait de bon cœur, comprenant qu'elle non plus ne pouvait avaler une bouchée supplémentaire à cause du remords qu'elle avait de contribuer ainsi à la mort de son adversaire. Mais Aureliano II interpréta son attitude comme un nouveau défi et se bourra la gorge de dindon bien au-delà de son incroyable capacité. Il perdit connaissance. Il piqua du nez dans le plat où ne restaient que les os, la babine écumante comme un chien s'étouffant dans les râles de l'agonie. Au milieu des ténèbres, il se sentit poussé du haut d'une tour dans un précipice sans fond, et dans un dernier éclair de lucidité, il se rendit compte qu'au bas de cette interminable chute l'attendait la mort.
« Qu'on m'emmène auprès de Fernanda !»
eut-il encore la force de prononcer. Les compagnons qui le déposèrent chez lui crurent qu'il avait tenu la promesse faite à son épouse de ne pas mourir dans le lit de sa concubine. Petrakotès avait ciré les bottines vernies qu'il souhaitait chausser dans son cercueil, et elle se préoccupait déjà de chercher quelqu'un pour les lui porter, quand on vint la prévenir qu'Aureliano II était hors de danger. Il fut effectivement rétabli en moins d'une semaine, et 15 jours plus tard, il célébra par un festin sans précédent ce jour de gloire où il lui avait été donné de survivre. Il continua d'habiter chez Petrakotès, mais rendait visite quotidiennement à Fernanda, et restait parfois à déjeuner en famille, comme si le destin s'était plu à inverser les situations et en avait fait l'époux de sa concubine et l'amant de sa propre épouse. Ce fut une manière de soulagement pour Fernanda. Dans les chagrins de l'abandon, ses seules distractions étaient les exercices de clavecin à l'heure de la sieste et les lettres de ses enfants. Dans les missives détaillées qu'elle leur envoyait tous les 15 jours, il n'y avait pas une ligne de vérité. Elle leur dissimulait ses peines. Elle leur passait sous silence la mélancolie d'une maison qui, malgré la lumière sur les bégonias, malgré la chaleur suffocante de 2 heures de l'après-midi, malgré le vent de fête qui soufflait par fréquentes rafales depuis la rue, de jour en jour, ressemblait davantage à la demeure coloniale de ses parents. Fernanda errait dans sa solitude entre 3 fantômes vivants et le fantôme mort de José Arcadio Buendía, qui s'en venait parfois s'asseoir dans la pénombre du salon, prêtant à tout une attention sourcilleuse, tandis qu'elle jouait du clavecin. Le colonel Aureliano Buendía n'était plus qu'une ombre. Depuis sa dernière sortie, où il était allé proposer une guerre sans avenir au colonel Guérinaldo Marquez, c'était à peine s'il quittait son atelier pour aller pisser sous le châtaignier. Il ne recevait d'autres visites que celles du coiffeur toutes les 3 semaines. Il se nourrissait de ce que voulait bien lui apporter Ursula une fois par jour, et bien qu'il continuât de fabriquer ses petits poissons en or avec la même ferveur qu'autrefois, il cessa de les vendre dès qu'il sut que les gens ne les achetaient pas comme bijoux, mais comme des reliques historiques. Il avait fait un grand feu dans le patio avec les poupées de Remedios qui avaient décoré sa chambre depuis le jour de leur mariage. Ursula, à laquelle rien n'échappait, se rendit compte de ce que son fils était en train de faire, mais ne put l'empêcher.
« Tu as une pierre à la place du cœur !» lui dit-elle.
« Il ne s'agit pas d'une affaire de cœur, » lui répliqua-t-il. « La chambre est en train d'être envahie par les mythes. »
Amaranta tissait son suaire. Fernanda ne comprenait pas pourquoi il lui arrivait d'écrire des lettres à Mémé et même de lui envoyer des cadeaux alors qu'elle ne voulait pas dire un mot au sujet de José Arcadio.
« Elle mourra sans savoir pourquoi, » répondit Amaranta lorsqu'elle lui posa la question par l'entremise d'Ursula.
Et cette réponse sema dans son cœur une énigme qu'elle ne parvint jamais à élucider. Grande, pareille à une longue tige écanguée, hautaine, toujours vêtue d'abondants jupons bouillonnants de dentelle, avec cet air distingué qui résistait aux années et aux mauvais souvenirs, Amaranta semblait porter au front la croix de cendre de la virginité. En fait, c'était à la main qu'elle la portait, sous la bande noire qu'elle n'ôtait même pas pour dormir et qu'elle lavait et repassait elle-même. À broder son linceul, la vie s'en allait. On aurait dit qu'elle y travaillait dans la journée et défaisait son ouvrage la nuit venue, non dans l'espoir de vaincre ainsi sa solitude, mais tout au contraire pour l'entretenir. Ce qui préoccupait le plus Fernanda durant ses années d'abandon, c'était que Mémé s'en vint passer ses premières vacances à la maison sans y trouver Aureliano II. La congestion mit fin à ses craintes.
Lorsque Mémé fut de retour, ses parents s'étaient mis d'accord non seulement pour faire croire à la fillette qu'Aureliano le second était resté un mari tout à fait domestiqué, mais pour empêcher qu'elle ne remarquât la tristesse de la maison. Chaque année, pendant 2 mois, Aureliano le second jouait son rôle d'époux modèle et organisait de petites fêtes où l'on servait des glaces, des gâteaux secs et qu'égayait l'écolière enjouée et pleine de vie en se mettant au clavecin. Il était déjà devenu évident qu'elle n'avait hérité que très peu du caractère de sa mère. On aurait dit plutôt une seconde version d'Amaranta, à l'époque où cette dernière ne connaissait pas encore l'amertume et semait une joyeuse panique dans la maison avec ses pas de danse quand elle avait 12 ou 14 ans, avant cette passion secrète pour Pietro Crespi, qui dans son cœur marqua un changement de cap définitif. Mais à la différence d'Amaranta, et contrairement à tous, Mémé ne paraissait pas encore promise au destin solitaire de la famille et avait l'air parfaitement accordée au monde, même quand elle s'enfermait au salon vers 2 heures de l'après-midi pour travailler son clavecin avec une discipline inflexible. On devinait très clairement qu'elle se plaisait dans cette maison, qu'elle passait toute l'année à rêver au joli chahut d'adolescente rameutée par son arrivée et qu'elle n'était pas très éloignée de partager la vocation de fêtard et le sens de l'hospitalité débordant de son père. Le premier signe de cet héritage malheureux apparut lors des 3e grandes vacances, le jour où Mémé débarqua à la maison en compagnie de 4 religieuses et de 68 camarades de classe qu'elle avait invités à venir passer une semaine dans sa famille, de sa propre initiative et sans prévenir personne.
« Quel désastre !» gémit Fernanda. « Cet enfant est aussi barbare que son père !»
Il fallut emprunter des lits et des hamacs aux voisins, faire 9 services pour les repas, fixer des horaires pour l'occupation des bains et réussir à se faire prêter 40 tabourets pour que les fillettes en uniforme bleu et bottillon d'homme ne passassent toute la journée à papillonner en tous sens. Cette invitation fut un fiasco, car les turbulentes collégiennes avaient à peine fini de prendre leur petit déjeuner qu'il fallait déjà entamer le premier service du déjeuner, et ainsi de suite jusqu'au dîner, si bien que dans la semaine, elles ne purent faire qu'une seule promenade jusqu'aux plantations. À la tombée de la nuit, les religieuses étaient épuisées, incapables de se mouvoir, de donner un ordre de plus, alors que le troupeau d'adolescentes infatigables était encore dans le patio à chanter d'insipides couplets scolaires. Un jour, elles faillirent renverser Ursula, qui s'obstinait à vouloir se rendre utile là où elle gênait précisément le plus. Un autre jour, ce furent les religieuses qui firent un esclandre, parce que le colonel Aureliano Buendia s'en vint pisser sous le châtaignier sans se préoccuper que les pensionnaires étaient dans le patio. Amaranta faillit semer la panique quand une des sœurs fit irruption dans la cuisine, au moment où elle salait la soupe et ne trouva rien d'autre à lui demander que la nature de cette poudre blanche qu'elle mettait par poignée.
« De l'arsenic !» répondit Amaranta.